sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Sarah Dion, prise de son assurée par Jean-Frédéric, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, non pas trois, mais quatre éminents camarades, Anaël Pijat, Corinne Rondeau, Lucille Como et Stéphane Coréard. Pourquoi ? Parce que nous allons parler du printemps de septembre qui se poursuit jusqu'au 21 octobre à Toulouse, qu'il y aura un double coup de cœur de Stéphane Coréard, son cœur est si grand, et qu'il y aura aussi, joie, un petit salon de Lucille Como qui posera cette question. D'ailleurs, si vous avez envie ou même d'y réagir, hein, vous pouvez le faire sur Twitter. Qu'est-ce que l'art contemporain a à dire sur l'enfance ? Il y aura des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour Rafiki, un film de Wanuri Kaiyou, qui est sorti aujourd'hui dans les salles et dont on parlera vendredi dans la dispute. Nous aurons cette dispute avec le printemps de septembre, manifestation d'art contemporain devenue biennale, qui nous fait toujours envie, pour une simple et bonne raison, c'est le formidable Christian Bernard, l'ancien directeur du MAMCO à Genève, qui en est encore une fois le directeur artistique. Il a certes invité 12 commissaires pour l'assister, mais ce sont pas moins de 32 expositions à découvrir jusqu'au 21 octobre, avec des créations nouvelles ou des œuvres encore jamais vues en France, accompagnées de concerts, de performances. Encore une fois, mais ça vous allez mieux nous en parler, il s'agit d'interroger l'état du monde tel qu'il va mal, à travers notamment la question du post-colonialisme ou l'écologie. Sarkis, Tatiana Trouvé, Nina Chindres, Latifa Echakch, Angela Tchia, Brice Delsperger et beaucoup d'autres. Oui, mais vous en avez choisi d'autres, mais je donne d'autres noms, comme ça. Beaucoup d'artistes, alors certains qu'on connaît, dont on ne connaît pas forcément toujours le nom. Exercice toujours difficile de faire un choix dans ces propositions, exercice auquel se sont livrés nos trois envoyés spéciaux à Toulouse. Avant la sélection, peut-être un regard général sur la manifestation. Vous avez déjà choisi beaucoup de choses, mais je rajoute une question. C'est normal d'avoir un sentiment un peu général, Corinne Rondeau ?
Un sentiment général qui ne peut pas être tout à fait général vu qu'on a fait plutôt les expositions du centre, donc on peut pas non plus donner avec grande objectivité la tenue, je dirais. Mais ce qui est clair, et là je pense que mes camarades et je sais qu'Anaël partage ce point de vue, le titre dit beaucoup de choses en fait. Fracas et frêle bruit, qui est une reprise de Michel Léris d'un titre. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est après l'explosion quoi. Il s'est passé voilà. Et donc c'est pas une exposition. Ce sont pas des expositions, je dirais, de l'ordre du spectaculaire. Donc ça c'est déjà une tendance, je dirais, du printemps. C'est-à-dire qu'on est capable de faire du peu avec plus grand. Mais on est aussi vers des œuvres qui n'ont pas forcément des choses à se dire entre elles, voire sur des formes de paradoxes. Donc on n'est pas dans un forçage de la part de Christian Bernard et de ses commissaires dans la volonté d'instrumentaliser les œuvres au travers d'une thématique quelconque. Là, voilà.
Anna Lepija.
Effectivement, c'est une édition intéressante qui soulève la question du format de ces biennales, je trouve. C'est-à-dire que Fracas et frêle bruit, c'est un thème qui, Christian Bernard ne s'en cache pas d'ailleurs, a été choisi dans un second temps, une fois les œuvres rassemblées, qui est le constat d'un état du monde, mais qui ne tente pas, comme le font beaucoup de biennales aujourd'hui, de faire une immense exposition collective. Il y a des expositions collectives dans cette édition du printemps de septembre, mais qui ne tente pas un immense propos général qui agrégerait beaucoup de choses qui ne vont pas ensemble, mais qui assume un certain nombre de propositions monographiques. Et en fait, je trouve que c'est tout à fait intéressant aujourd'hui de pouvoir avoir des regards singuliers sur des œuvres singulières, surtout quand elles sont de bonne qualité.
Stéphane Coréard, enfin.
Oui, en effet, Christian Bernard, vous avez raison. Arnaud est un formidable programmateur, commissaire d'exposition. Il lui-même assume effectivement le caractère très fragmentaire et fragmenté de cette biennale. Il parle il dit qu'il refuse, enfin qu'il acte le refus ou l'impossibilité d'une vision unifiée de l'art, et il prend comme image celle d'archipel d'archipel. Donc on n'est même plus dans les archipels à la Édouard Glissant, on est dans les archipels d'archipel. En réalité, c'est aussi un retour, comme il le fait souvent, sur son propre parcours, puisque c'est effectivement, vous avez parlé de quelques-unes des thématiques qui sont abordées dans cette biennale. On pourrait rajouter aussi le burlesque contemporain, l'après-cinéma, l'élu des années 60, le poste du chant, etc., qui sont des thématiques qui étaient déjà présentes dans les précédentes éditions du printemps de septembre et qu'il a en quelque sorte rassemblées.
Annaëlle, tout petit mot, hein. Tout petit.
Il y a aussi des fidélités de Christian Bernard et du printemps de septembre.
Attention, nous revenons au direct du studio. Le rouge s'allume et les rires fusent. C'est la gaieté du printemps de septembre. Premier binôme d'exposition dont vous avez choisi de parler, qui se tiennent toutes deux au couvent des Jacobins. Vous allez nous parler de Bruno Girancoli et de Sarkis. Qui va commencer ? Annaëlle Pigeat.
Bruno Girancoli. Bruno Girancoli, c'est un artiste.
C'est un bon début.
Il est né en 1928.
Bruno Girancoli, c'est un artiste qui est très peu vu en France, qui a été montré par Marc-Olivier Valère au Palais de Tokyo, qui est montré régulièrement par sa galerie Bernard Jordan, mais dont on voit là plusieurs dizaines d'œuvres qui donnent une vision.
Plusieurs dizaines.
Oui, une trentaine d'œuvres.
En fait, ah oui, d'accord. Plusieurs dizaines, ça fait 120, voyez un peu.
Non, en fait, c'est une exposition qui donne un bon aperçu de son travail, mais qui est une exposition surprenante parce qu'on connaît en général de très grandes sculptures, des sculptures presque monumentales de Bruno Girancoli.
Oui, parce que quand on ne connaît rien, il faut commencer par dire ce qu'il fait.
Voilà, c'est un sculpteur, absolument. C'est un sculpteur qui est un sculpteur viennois, qui est né en 1936, je crois, qui est mort en 2010. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est un peu. En gros, c'est ça.
36.
C'est ça. Qui a un univers extrêmement, extrêmement marqué, qui est un bricoleur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit ses maquettes. L'exposition, c'est une exposition de maquettes, donc d'œuvres de relativement petit format pour lui, et qui le montre au travail. C'est-à-dire que ce sont en fait des assemblages d'objets, parfois des assemblages d'anciennes sculptures, qui sont mêlés pour faire de grands des sculptures qui sont ensuite fendues en bronze.
Corinne Rondeau a l'air perdue. Qu'est-ce qui se passe, Corinne ?
On est pas d'accord ?
Je sais pas si...
Non, il y a des maquettes, mais il y a aussi des œuvres relativement. Enfin, il a fait des œuvres réellement monumentales, notamment pour l'extérieur. Mais là, il y a quand même des œuvres qui font plusieurs mètres de haut, donc
oui,
c'est des maquettes.
Enfin, c'est
on
quand
va
même,
dire
c'est
une échelle déjà quand même assez importante.
Certes, mais c'est quand même un ensemble de maquettes, ce qui est un fait particulier. Il y a une grande sculpture.
Elle ne veut pas s'arrêter pour vous laisser.
Qui est dans le jardin des abattoirs. Et en fait, le projet initial de l'exposition consistait à montrer de grandes sculptures.
Corinne Rondeau, c'était quoi votre interrogation, surprise ?
Qu'il n'y ait que des maquettes.
Ah d'accord.
Non mais parce qu'en plus on a une sculpture où il y a carrément un cartel qui est inscrit dans le socle comme si c'était une œuvre qui avait été retirée d'un espace public. Donc
Bon, interrogation.
Alors bon, c'est super quoi.
Alors Stéphane Correa.
Oui, en réalité, pour être tout à fait précis, il y a des maquettes qui ne sont d'ailleurs pas fondues, effectivement, qui sont ni en aluminium ni en bronze, qui sont en résine, en plâtre, etc., des matériaux d'atelier. Mais il y a effectivement aussi des pièces qui sont fondues et des pièces de tout format, ce qui rend pas effectivement dans l'installation, je trouve, ça n'aide pas la compréhension de l'œuvre, notamment ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre de Girancoli, parce que tout se livre tout de suite. Ces dizaines de sculptures, imaginez, sont mélangées dans cette vaste salle. Mais l'œil quand même finit par s'y frayer son chemin, et si ça n'aide pas à la compréhension, ça incite en revanche à une forme de dérive entre les sculptures, et du coup le regard achoppe sur des détails qui sont parfois extrêmement signifiants, même des références très précises. On voit que la psychanalyse, par exemple, jusqu'à la fin de son travail, il y a quelque chose qui l'a beaucoup intéressé. Il y a des références explicites, y compris dans les titres au roman de de Beckett à Murphy, ou même ces héros en fait qui soit passent leur temps harnachés sur un fauteuil à bascule, enfin dans le cas de Murphy, ou en tout cas qui sont une forme d'immobilisme qui devient du coup une métaphore de la sculpture, avec des thèmes qui là aussi sont récurrents: la violence, la torture, la sexualité, la fécondité, et on rentre vraiment dans cet univers effectivement singulier qu'on avait vu au Palais de Tokyo en 2007. C'était en fait Hugo Rondinone qui l'avait invité dans le cadre de la grande exposition qu'il avait organisée au Palais de Tokyo.
Corinne Rondeau, un petit mot sur Bruno Gironcoli.
C'est vrai que dans le réfectoire des Jacobins, ça vraiment, comme on le dit, ça envoie quoi. Il y a quelque chose de ces sculptures qui sont mi-organiques, mi-machiniques, dans lesquelles on a un certain nombre de motifs, vous l'avez dit, mais où il y a des grappes de raisin, où il y a des sortes de nouveau-nés, enfin des choses très étranges. Ça ressemble vraiment à de la science-fiction. Enfin, si on avait une image assez rapide à donner, il y a quelque chose de... C'est le sculpteur le plus ovni qu'on ait, je dirais, de sa génération. Il est très étrange. Il y a une proposition à la fois dans les couleurs qui sont données dans le réfectoire, qui sont assez belles et qui renvoient en fait à l'architecture. Et je trouve que cette manière de mettre la base vraiment de la sculpture en bas, enfin la sculpture qui est vraiment au sol, elle permet aussi une élévation de l'architecture du réfectoire, et ça c'est assez beau, je dois dire, c'est le lieu parfait pour sa présence, en tout cas dans le
petit post-scriptum d'Anaël Pigeard.
On voit tout cet univers viennois qui se mêle avec des influences en effet de science-fiction, mais aussi on voit des motifs très décoratifs qui sont curieusement inspirés de la sécession. On voit l'influence qu'il porte du surréalisme, on voit l'influence aussi qu'il porte de la peinture flamande. C'est vraiment une œuvre extraordinairement riche qui crée un vocabulaire singulier dans lequel on retrouve sa personnalité.
Il n'est pas seul au couvent des Jacobins, Bruno Gironcoli, puisque Sarkis est là également, oui. Corinne Rondeau.
Oui, il est là. Alors, s'il y en a un qui vous
mesure de la lumière.
Oui, s'il y en a un qui vous fout les jetons, Gironcoli, là, on passe du côté de la... De l'autre bâtiment là, avec ces fameuses voûtes gothiques de l'église. Ouais. Et bon, on est dans un espace plutôt de contemplation, on va dire. Ce sont de grands néons qui représentent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qui vont rythmer comme ça la partie supérieure de l'église, dans la mesure où en fait elles font la moitié des vitraux. Et donc il y a quelque chose qui joue avec la lumière. C'est vrai qu'il y a un renforcement, on va dire, de la lumière qui traverse les vitraux. Et ensuite vous avez l'ensemble de ces néons qui sont reportés plutôt vers le cœur, là où se trouve la colonne à palmiers, vous savez, où il y a 22 tiges comme ça, une architecture unique dans le monde gothique. Et voilà. Donc c'est assez beau, on va dire, maintenant.
Simple.
Oui, voilà, mais ça joue bien sur le... C'est comme un diptyque, on va dire, ces deux artistes-là, donnent à la fois une dimension d'élévation, l'autre une dimension plus organique. Donc il y a un jeu formel qui se met assez bien et qui donne aussi quelque chose d'une subjectivité, d'une personnalité des artistes, quoi.
Ça joue bien, Stéphane Correa ?
Oui, enfin moi j'ai trouvé que la solution qu'avait retenue Sarkis pour occuper cet espace, qui somme toute n'en aurait pas forcément besoin, était assez paresseuse, dans le sens où il est parti, à mon avis, de présupposés qui sont faux. D'abord, il disait qu'il n'y avait pas de sacralité dans ce lieu. C'est vrai qu'on y fait plus d'office, mais enfin, je trouve qu'il ne manque pas de sacralité. Donc, il a voulu en ramener, notamment avec cette musique. Là, il a passé une commande à un musicien qui ramène des bruits de la ville, mais tout ça reste quand même assez timide. Et puis, il trouve aussi que ça manquait de couleurs et de lumière, ce qui est quand même très étonnant, parce qu'il y a des vitraux, notamment la moitié des vitraux étaient faits par Maxime Grand, et qui sont hyper colorés, notamment bleu et rouge, et qui inondent le bâtiment. Et lui, avec ses une frêle néon, je trouve, notamment en plein jour, comme quand on a visité l'exposition, je trouve un petit peu à la peine, un peu à la ramasse, comme on dirait. Mais surtout, c'est aussi un peu paresseux, parce que franchement, c'est, on dirait une parodie de Sarkis, c'est-à-dire que les sept...
Ça fait
80s à fond, c'est-à-dire que les sept lampes qui pendent, il avait déjà fait ça à l'arc au début des années 80, je crois, en 83. C'est la lumière qui joue dans un espace d'église, il avait déjà fait ça dans l'exposition à Pierre et Marie.
En 85, oui. Moi, j'ai vu quelque chose qui recycle.
Non, ça me pose absolument pas de problème qu'il recycle. Et surtout, j'ai vu quelque chose d'un peu félinien. J'ai imaginé, en tout cas, quelque chose d'un peu félinien dans cette église.
Pas tellement de néons chez Fellini.
Non, il n'y a pas tellement de néons, mais en revanche, il y a des fresques.
Confondu avec Jean-Jacques Benex.
En revanche, il y a des fresques qui s'effacent. Et en fait, quand on se trouve sous la très belle, sous le très, très beau palmier, sous la voûte du palmier du bout de l'église, il y a dans les chapelles tout autour des fresques du XIIIe siècle qui sont en train de s'effacer. Et j'imaginais que cette œuvre en néon qui joue sur la lumière, qui est une sorte de résumé de la lumière sur l'apparition et la disparition des images, éclairait ces fresques en même temps qu'elles peut-être contribuer à les effacer. En tout cas, qu'il y avait...
Ça vous a amené à rêver un peu.
Exactement.
C'est déjà une bonne chose pour cette œuvre-là. On va continuer dans un instant à parler du printemps de septembre à Toulouse. Et plus tard dans l'émission, il y aura le petit salon de Lucille Como qui a envie d'intervenir, mais on n'a pas le temps sur toutes ces œuvres que nous découvrons ensemble.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Je plaisante, bien sûr, si Lucille Como veut intervenir. Elle est chez elle, dans cette émission, évidemment. Suite de cette dispute largement consacrée au printemps de septembre, manifestation d'art contemporain, rappelons-le, qui est devenue biennale. Christian Bernard, on est à nouveau le directeur artistique. Et on a là un autre binôme, puisque vous avez fait cette proposition, David Clairbot et Jacqueline De Jong. Pas vraiment, a priori, deux petites expositions, mais deux grandes, parce que j'ai cru comprendre que vous jouiez un peu grand et moins grand. David Clairbot, vous connaissez un peu,
oui,
vous avez écrit
oui.
Un livre sur lui, il me semble.
Oui.
Publicité clandestine, bim.
Oui, bon, voilà, quand on connaît Clairbot, c'est bien. Enfin, bon.
Il faut dire ce que c'est.
Oui, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, David Clairbot travaille sur la représentation de l'image et la perception qu'on en a à partir et de la photographie du 19e siècle et de l'invention du cinéma jusqu'à l'image aujourd'hui numérique, pixelisée. Donc, il passe jusqu'à la reconstruction littéralement d'images qui n'ont vraiment jamais existé. Donc, on passe dans une exposition qui est bien, je dirais, organisée. C'est lui d'ailleurs, je crois, qui a fait l'accrochage avec les commissaires. Donc vous avez une partie des abattoirs au niveau du rez-de-chaussée où vous avez les œuvres les plus anciennes, on va dire, avec du noir et blanc plutôt. Ça va donc de la carte postale 19e avec un arbre qui bouge, il fait bouger les feuilles pour ceux qui connaissent. Donc ce qui, moi, m'avait vraiment beaucoup marqué puisque c'est une manière de faire revenir quelque chose du passé à l'intérieur d'une image mobile. Du fixe au mobile. Et puis il y a un travail aussi sur la reconstitution des corps à travers l'image. C'est-à-dire, il va récupérer une fragmentation. Donc vous avez Elvis par exemple, et la caméra, c'est une reconstruction. Il a pris tous les bouts de photos qu'on connaît de Elvis Presley, et en fait vous allez rentrer dans l'image et vous allez tourner autour du corps de Elvis Presley avant qu'il soit connu, mais vous tournez toujours autour d'une icône. Donc en fait, si vous voulez, 2016, ça c'est une exposition, c'est une vidéo de 2016. Il indexe là quelque chose de la représentation. Il nous dit, il y a quelque chose de plus en plus pédagogique, de plus en plus didactique dans son
et
travail.
Ça
m'ennuie profondément.
Vous
je
avez
dois
envie
dire.
Que de ressentir et de comprendre
voilà.
Par vous-même.
Et parce que toute cette partie-là, une grande dimension poétique, je trouve, des premières œuvres. Et puis l'œuvre du milieu qui est très très belle, c'est All Workers. C'est une photographie qu'il a fait avec des ouvriers qui travaillent dans Shell, l'usine Shell en Afrique. Et puis il va y avoir une grande zone aqueuse et huileuse. On rentre dans cette espèce de tourbillon et en fait on va passer devant ce groupe de personnages d'ouvriers africains. Puis en fait on croit qu'on va passer au-dessus d'un pont, parce qu'il faut passer au-dessus d'un pont, parce qu'ils sont dessous. Et en fait, on rentre dans cet œil à queue, et en fait, on va passer de l'autre côté du pont sans y passer. Donc, il nous fait rentrer dans une sorte de bande de Mobius, on est dedans et dehors à la fois. On fait le tour de l'image.
C'est une œuvre nouvelle, celle-ci ?
Alors, celle-là, non, elle est des années 2000.
Je me semble l'avoir vue.
Celle-là, vous l'avez
oui,
déjà
oui,
eue. Et celle-ci, en fait, elle organise bien, puisqu'elle fait le pont, elle l'articule. Puis, vous avez une deuxième partie, elles, qui sont plus récentes. Voilà, où là, je trouve que les dimension plus colorée aussi, il y a beaucoup plus dit, il y a que de l'image couleur, je crois, il me semble, ouais. Et là, je trouve qu'il y a une manière de tout le temps utiliser l'image qui traverse le temps, qui va d'un temps du passé qui était floral, la nature, etc. Et puis on a un travelling arrière où on découvre un monde qui s'est décomposé, mais c'est aussi un monde qui n'a pas existé. Il reconstruit tout le temps une façade, par exemple chinoise. On passe d'un jardin asiatique à une devanture d'immeuble. Donc voilà, bon, c'est beau pour ceux qui connaissent pas. Je pense que c'est une première approche qui est pas du tout inintéressante, même si de mon point de vue personnel, je trouve qu'il y a une faiblesse depuis les années 2014-15. Je trouve qu'il y a il a un rapport trop pédagogique à son travail.
Trop pédagogique, Annel Pigeon ?
D'une certaine manière, c'est vrai qu'il tombe dans une sorte de maniérisme de lui-même, en fait, à partir d'un certain moment. Cela dit, l'exposition, effectivement, est très belle. Elle dessine une sorte d'histoire de la photographie indirectement à travers son travail, en passant du noir et blanc sur tout le côté droit du bâtiment à tout le côté gauche qui est en couleur. Les œuvres ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique de leur réalisation, mais il y a comme ça... en fait, ce que montre cette œuvre, c'est vraiment un travail sur l'image. Il tente, au fond, paradoxalement, dans un monde où l'image est en tout numérique, de lui donner une matérialité, et on voit finalement qu'il arrive à une sorte de travail sur le pixel par pixel, qui effectivement, il parle d'une manière de sculpter, il lit ça à son rapport au temps et parle de sa manière de sculpter le temps, et on voit qu'en travaillant par pixel, il donne une matérialité au numérique. Par exemple, dans cette vidéo qui s'appelle Quiet Shore, donc rivage tranquille, dans lequel on voit une succession de vues de plages, dans lequel il incruste des personnages qui sont des photographies, dans lequel il incruste des personnages en vidéo, un peu comme le principe de l'arbre décrit par Corinne, qui est effectivement magnifique, dont les feuilles bougent. Ce que propose David Clarbou, c'est une sorte d'éloge de la lenteur, ce qui, par les temps qui courent, est un discours que moi je trouve assez plaisant, un éloge de la contemplation. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de vidéos qui sont un petit peu lassantes. Alors, je me suis demandé, par exemple, cette vidéo qui s'appelle Travel, qui est commencée en 96 et finie en 2013, et qui est une reconstitution intégrale d'une forêt qui est effectivement extrêmement spectaculaire et qui a quelque chose de très contemplatif. Aujourd'hui, dans un monde où le numérique est partout, encore une fois, et où on s'est habitué à voir des reconstitutions, peut-être que c'est moins étonnant que quand on voit ça en 1996, au moment où le projet commence.
Stéphane Coréard, enfin, sur David Clarbout.
Cette œuvre Travel, qui est présentée un peu comme le chef-d'œuvre, ne serait-ce que par ces deux dates, hein, 1996-2013, résume bien l'exposition. Je trouve le travail, effectivement, montré comme ça, devient non seulement didactique, mais presque tautologique. C'est-à-dire que c'est effectivement très spectaculaire, mais c'est le spectaculaire au service du spectaculaire. D'une certaine manière, et l'image, surtout, ne s'occupe plus que d'elle-même. Je trouve qu'à part la pièce centrale par laquelle on arrive, et dont parlait Corinne Rondeau sur ces travailleurs, qui est effectivement une pièce magnifique, je trouve, on a l'impression qu'il va nous parler de quelque chose, il finit par se mettre en retrait, et vraiment ne plus parler de rien. Dans cette vidéo Travel, effectivement, qu'il a pas mis en réalité 17 ans à la faire, c'est que les outils technologique n'était pas disponible. Le projet est complètement stupide. C'est-à-dire qu'en fait, il prend une musique de méditation, une musique d'ascenseur spirituel, et il fait l'image qui correspond. Donc, on est dans une espèce de travelling infini à travers une...
C'est pas tout à fait
vrai. C'est quand même le projet, tel que lui-même, d'ailleurs, l'énonce.
C'est parce que la musique relève de comment s'endormir. Et il voulait faire une image adaptée à quelle image produit l'endormissement. Jusqu'à quelle limite on est dans l'insupportable ou dans le supportable de l'image. Mais bon, on ne sait pas si c'est au moment où on s'endort ou pas, d'ailleurs. Mais bon, ouais, c'est pas... Voilà.
Ouais, je finirai la phrase la prochaine fois.
Non, mais pour moi, ça manque clairement de frottement. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire en disant que c'est tautologique. De la manière sur Warhol, effectivement, ils insistent beaucoup sur l'aspect technologique. Il a pris des milliers de photos de Elvis Presley, pardon. Ouais. Je pense justement à Warhol parce que moi, j'ai pensé plutôt aux sérigraphies de Warhol qui sont contemporaines pour le coup de la vie de Presley, qui sont de milieu des années 60 et qui en disent beaucoup plus sur le mélange étrange de réalité et de déréalisation, finalement, qu'est une icône naissante comme celle de Presley. Que ce film qui pour moi reste un tour de force, mais finalement une virtuosité qui est un pur exercice de style.
Alors gardez le micro, Stéphane Coréard, pour parler de Jacqueline de Jong.
Ah, mais Jacqueline de Jong, évidemment, c'est tout à fait autre chose.
C'est pour ça que je laisse le micro.
C'est l'artiste qui occupe le sous-sol des abattoirs.
Reste aux abattoirs.
Et elle illustre parfaitement les ironiques avantages d'être une femme artiste qui avait été édictée, vous vous en souvenez sans doute, par les Guerilla Girls dès 88, dans un célèbre poster. Donc être sûr que le succès vous montera pas à la tête, savoir que votre carrière peut exploser dès 80 ans. Bon, Jacqueline de Jong n'en a que 79, donc ça fait un petit peu mentir à les Guerilla Girls. Voir ses propres idées reprises dans le travail des autres. Avoir plus de temps pour travailler après que votre mec vous ait viré pour quelqu'un de plus jeune, etc. C'est exactement le cas de Jacqueline de Jong, qui est connue principalement pour avoir été la compagne d'Asghar Yorn dans les années 60 et avoir créé en 62 la seule revue de l'internat situationniste en anglais, Situationist Times, qu'elle a quand même, paradoxe, créée après son éviction du mouvement par par Guy Debord. Voilà. Donc c'est une revue situationniste.
Faire.
Voilà, post-situationniste. Et d'ailleurs, on voit que ces avantages qui étaient évidemment énoncés ironiquement par les Gary Eagles, mais qui tapent très juste, finalement, en forment vraiment un, qui est la liberté. Et toutes ces femmes, et aussi d'autres d'ailleurs, artistes, y compris masculins, qui n'ont pas connu le succès et qui ont été largement sous-estimés pendant toutes ces années, ont eu une grande liberté. Et donc, dès la revue Situationist Times, on voit qu'elle mêle effrontément des personnalités issues de Cobra, des surréalistes, des lettristes, déjà les débuts de Fluxus, à mille lieues évidemment de la doxa de Bordier. Et
qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition ?
Alors, dans son travail, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle musarde, totalement dans son époque. Hein, les débuts sont quasiment Cobra, on peut dire, très proches effectivement de peinture d'Asgarian ou de Karel Appel, mais on voit très vite dès le milieu des années 60. Il y a par exemple un très beau paravent, un triptyque qui a été acheté d'ailleurs par les abattoirs et qui est un peu la pièce maîtresse de cette exposition, que cette peinture s'hybride, recours à l'objet. Alors on n'est justement pas tout à fait chez Rauschenberg et les Combined Paintings, on est plutôt déjà de l'ordre de la performance, ça ressemble beaucoup aux peintures que Carolee Schneemann par exemple, ou Alain Capro ou Fellström peuvent faire à la même époque. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents je trouve, donc c'est très bien. Malheureusement, on ne pourra pas en savoir tout à fait assez, parce que cette rétrospective, c'est ça aussi, les femmes artistes occupent à peu près le quart de la place de l'exposition de Claire Boot à l'étage du dessus, donc il manque beaucoup de choses, même si c'est méritoire déjà, et c'est la plus grande exposition consacrée à Jacqueline de Jong en France. Mais par exemple, il n'y a pas les collaborations avec Enrico Bage qu'elle a fait dans les années 80 en hommage à Asgarian, c'est-à-dire des croûtes repeintes, revisitées. Donc il manque des pans entiers de l'œuvre, mais ce qu'on voit est quand même très réjouissant.
Alors ce qu'on voit, quelques images, Anaëlle Pijard.
Une série de 77-78 sur des scènes de billard qui sont alors d'un genre tout à fait différent de ces peintures, Cobra que Stéphane vient de décrire. Ces peintures expressionnistes. Là, ce sont des scènes.
Il les a évoquées plutôt que décrites. Hein.
Bon, c'est vrai. Bon, en tout cas, disons que ses débuts sont.
Allez
très
voir par vous-même.
Par,
hein.
par
Je vois
Cobra.
Des images, moi.
Ses débuts sont vraiment très marqués par une forme d'expressionnisme. Ce sont des formes hurlantes avec des couleurs hurlantes. Alors, les scènes de billard dont je vous parlais sont au contraire beaucoup plus inspirées de formes d'hyper-réalisme. On pense à Monori, on pense à des scènes de meurtre. Ce sont des tableaux qui sont à la fois drôles, extrêmement tendus, parfois avec une dimension érotique qui est pleine d'humour, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans son travail. Il y a aussi des œuvres beaucoup plus récentes, parce qu'elle s'est installée dans le Bourbonnais, et alors elle a fait une série de peintures de patates, jusque des toiles très récentes de 2017, à partir de ces images de patates, un peu comme Agnès Varda d'ailleurs, qui s'est prise de passion pour les floraisons des patates. Elle a fait une série de bijoux qu'on avait vu par exemple au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris dans l'exposition de bijoux de l'année dernière, bijoux d'artistes, également aux arts décoratifs l'hiver dernier. Et alors il y a ce passage comme ça très drôle de la peinture à des patates en or en forme de bijoux.
Corinne Rondeau, enfin, sur Jacqueline de Jong.
Écoute, elle a la patate.
Bon, elle a la patate.
C'est une femme qui a la patate. Non, c'est vraiment, il faut aller le voir, parce qu'elle a une pêche d'enfer et elle a fait sa performance. Vous l'avez dit ?
Non, mais elle l'a fait.
Elle a détruit ce qu'elle a édité de l'international.
Les journaux, Situationist Times.
Voilà, c'est ça, merci.
Je vous en prie.
J'adore.
Je suis là
j'adore.
Pour ça.
Non, mais il faut aller voir.
Son expo qui, elle, dure plus longtemps, hein, l'une et l'autre, puisqu'elles sont aux abattoirs qu'elle fraque Occitanie-Toulouse. Et donc, ces deux expositions dont je viens de parler à l'instant, David Clairbeauté et Jacqueline de Jong, c'est jusqu'au 3 décembre qu'on peut les voir. Au 3 décembre de l'année prochaine, il y a marqué 2019. Mais est-ce une faute de frappe ? Nous le saurons dans un instant.
Hippolyte Engen, c'est l'association de nos deux noms de famille, Lina Engen égale Hippolyte. Hippolyte étant un prénom, on a choisi de faire un troisième personnage avec l'association de nos deux noms. Le fait de travailler à deux, ça nous empêche un petit peu, ça nous interdit de dire des choses très intimes. Et c'est aussi ce jeu d'effacement qui fait que les images qu'on produit, on en est les spectatrices. Et c'est ce qu'on aime aussi, c'est ce qui évite l'ennui, c'est qu'on n'est pas en train de regarder ce qu'on vit tous les jours, mais au contraire, on est en train de faire un troisième auteur qui produit une image qui nous surprenne, nous, alors qu'on l'a fabriquée. Mais c'est là qu'on se dit « Ah, intéressant !» Et du coup, c'est excitant et on a envie d'en faire une autre, et ainsi de suite.
Alors, on entendait une des membres du collectif tripartite, si j'ai bien compris, Hippolyte Engen, c'est ça, Anne Pijard ?
C'est ça, absolument.
Il dit non, Stéphane Correa, mais non, vous,
elles
vous
sont
dites...
deux.
Elles sont deux.
Elles sont deux. Ah. Enfin, c'est un personnage de fiction. C'est oui. un personnage de fiction. Elles sont deux.
D'accord. Elles
Gaëlle
sont deux.
Hippolyte et Lina Elgan.
Ah, très bien. D'où le nom,
Hippolyte Engen.
Et qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on voit au Château d'Eau là, jusqu'au 21 octobre?
C'est une exposition qui est tout à fait à l'image de leur travail sur les images. C'est un jeu de collage d'images qui se matérialise par deux séries d'œuvres qui sont au rez-de-chaussée et au sous-sol du Château d'Eau. Ce Château d'Eau, c'est cet espace très particulier qui est rond, dans lequel on circule comme ça, comme au fond dans un panorama. Et ce qui est assez réussi dans cette exposition, c'est qu'on a l'impression de passer dans les salles du Château d'Eau comme en regardant un dessin animé ou un film que sont leurs tentures, parce que ce sont en fait des tentures sur lesquelles elles ont cousu ou fait coudre des morceaux d'images piochés dans leur vocabulaire habituel Hippolyte Engen, des vieilles bandes dessinées inspirées notamment de Crazy Cat, de George Herriman, et on voit comme ça, alors le titre de l'exposition Brick est
B-R-E-E-K,
est un jeu de mots entre les jets de briques de Crazy Cat et la brique rose de Toulouse. Donc on se promène comme ça dans
cette tout ça au Château d'Eau qui a beaucoup de briques.
Ensemble d'images.
Fait en briques de Toulouse.
Absolument. Et on se trouve en bas devant un film d'animation dans lequel la pellicule a été dessinée et qui est comme ça, une sorte de condensé de l'exposition.
Dubitatif, Corinne Rondeau ?
Oh, ça ne m'intéresse pas du tout.
D'accord.
Par contre, Stéphane Correa, Béatrice Cuffat, la médiathèque, c'est vachement bien. Tracy Moffat, j'ai adoré aussi.
Mais au Théâtre de la Gare.
Mais alors ça, je laisse la parole à Corinne, qui j'ai trouvé ça assez indigent.
Stéphane Correa ?
Bah, si, c'est intéressant. Justement, je trouve que c'est ce que ce genre de biennale permet. C'est-à-dire qu'on connaissait le travail d'Hippolyte Engen, qu'on a vu de multiples reprises, notamment
dans la galerie
Semioz.
Moi, je ne connais pas.
Mais c'est un travail assez virtuose de dessin sur la narration, sur des collages d'influences, etc. Et là, je trouve qu'elles ont une exposition qui est très radicale, d'une certaine manière, assez conceptuelle, assez austère, ce à quoi elles ne nous avaient pas forcément habitués. Et effectivement, comme Anaëlle Pigeat l'a dit, il s'agit de deux grandes installations en rond, puisque finalement, les tentures leur permettent d'épouser les contours du Château d'Eau. Ce qu'on voit au sous-sol, c'est des pièces qui existaient, mais toutes les plus grandes tentures qui sont au rez-de-chaussée ont été créées pour l'occasion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, c'est qu'elles jouent sur tous les registres du dessin. C'est ce que montrent d'ailleurs les pièces du dessous, où systématiquement le même genre de scènes sont traitées de plusieurs manières, d'une façon comique, d'une façon plus savante, etc. Et dans les grandes tentures, il y a en même temps le travail de la matière, le travail du tissu, le travail de la couture, etc., qui redouble le travail du dessin. Et je trouve que c'est une exposition très riche dans laquelle il faudrait passer du temps.
Pas d'accord, Corinne Rondeau. Moi, j'ai envie qu'on consacre le peu de temps qu'il nous reste après cette visite au pas de charge à Toulouse, grâce à vous, à Nina Childress.
Ah, quand même, c'est ce qu'il y a de mieux.
Et ben voilà, c'est pour ça que je le gardais pour la fin, Corinne Rondeau. Nina Childress, alors, il faut dire qu'est-ce que c'est, qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait?
Bah, elle peint. Elle peint et finalement, elle est allée récupérer quelques tableaux qui sont des croûtes du musée des Augustins et elle a fait une série comme ça et qui, moi, me fait mourir de rire puisqu'en fait, ça commence avec quelque chose qui relève d'une fable de La Fontaine, l'aigle et le hibou. Et donc, vous arrivez, il y a marqué « Les hiboux aussi trouvent ces petits jolis ». Et vous savez que la fable, c'est finalement la lucidité conduite à l'aveuglement. Et cette exposition, enfin, et puis si on a un peu l'habitude de Nina Childress, qui va nous peindre que des femmes ici, puisque ça commence, bon, il y a Sylvie Vartan en très gros plan, il y a un petit tableau qui, d'ailleurs, le titre d'un tableau des Augustins, il y a Nina jouant ou chantant, je ne sais trop quoi, et puis une statue. Donc on est dans un domaine, le gynécée est ici, et puis on arrive avec une copie d'un tableau de modèle, avec les peintres, le modèle à moitié nu qui est en train de servir. Et puis là-dessus se décline finalement toute une dimension phallocratique. Et pour moi, alors Nina Childress, c'est vraiment Peyton Place, vous voyez. C'est-à-dire quelque chose qui...
C'est le souvenir.
Oui, non, mais c'est-à-dire le petit truc sordide dans lequel se jouent les amours, les secrets, etc. Et ce parcours finalement est extrêmement drôle. D'une part, il est extrêmement fin aussi et parfois plein d'élégance, puisqu'en fait, il y a à l'intérieur de la peinture, il y a aussi l'accrochage. Et c'est dans ce rapport entre ce qu'on ne connaît pas et dont on se dit parfois « mais c'est du Nina Childress et ça n'en est pas », et où d'ailleurs elle a copié un tableau d'un peintre et elle a signé Childress. Donc là, si vous voulez, moi ça me... Et la manière dont elle a même de le présenter, c'est une manière de dire bah voilà, la femme elle est un instrument, puis la femme ne peut être qu'un modèle, puis la femme de toute façon elle est là pour reproduire grosso modo ou montrer son cul et ses seins, et puis à la fin elle meurt et c'est tout. Et donc quand les artistes ont cette manière radicale d'être dans la peinture en assumant le mauvais goût que peut être aussi la peinture, qui est aussi la fable de La Fontaine, à savoir c'est une question de goût, ben les choix se font aussi à l'intérieur d'une intelligence de l'accrochage que moi j'ai particulièrement apprécié.
Qui est au musée Paul Dupuis, celle-ci d'exposition. Stéphane Correard, Sonia Childress.
Bah, je suis totalement d'accord avec Corinne Rondeau. Intelligence, radicalité, c'est vraiment ce qui caractérise cette exposition. La peinture est merveilleuse, elle reste merveilleuse quand elle entretient, quand elle est pratiquée par des artistes qui entretiennent avec elle un rapport d'amour-haine. Trop souvent, malheureusement, les peintres, aujourd'hui, un peu à la manière de Soulages, si vous voulez, dès qu'ils font un trait de pinceau, ils sont là, ils font deux pas de recul, et puis ils disent, ah, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique la peinture, mais c'est justement parce que c'est magnifique qu'il faut la décaper et qu'il faut, utiliser son vitriol en même temps que l'essence de térébenthine. Donc là, elle y va effectivement, c'est une relecture pour le coup hyper radicale et décapante de l'histoire de l'art depuis le XVIe siècle, mais fait effectivement avec en même temps beaucoup de légèreté. On voit surgir des artistes dont on n'avait jamais, je pense, entendu parler. Henri Rachou, Félix Gonax, Jean-Claude Guignebert sont les nouveaux héros de cette exposition qui, effectivement, met très intelligemment en tension, on va dire, à la fois les différents âges de la femme et les différents âges de l'histoire de l'art et de la place de la femme dans l'histoire de l'art. Donc en réalité, c'est même assez savant, mais c'est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup d'esprit. Effectivement, c'était aussi un jeu de pistes, parce que comme l'a dit Corinne Rondeau, Nina Childress refait des tableaux, il y a des copies, il y a des tirages parfois, type poster, etc. Tout ça est plein d'irrévérences. Et voilà, bah, donc il faut vraiment y aller. Hein.
Enfin, Naël Pigeat sur
Je souscris à ces deux propos de mes camarades. C'est une exposition qui est totalement réjouissante, d'une extrême intelligence, extrêmement drôle. Il y a des jeux. C'est vraiment une réflexion sur ce que c'est qu'un musée aujourd'hui, sur ce que c'est que la peinture aujourd'hui. Il y a des effets de scénographie sur ce que c'est qu'une femme peintre aujourd'hui. C'est très drôle d'ailleurs parce que parmi tous les artistes qu'elle a sortis des oubliettes de l'histoire, il n'y a pas une seule femme. Moi, j'avais envie d'en savoir plus, en fait, surtout sur... j'avais noté Henri Rachou, mais j'avais aussi noté l'existence d'Antoine Rivals ou de Henri-Nicolas von Gorp, qui d'ailleurs a peint le portrait de Nina chantant la romance. Pour Nina Childress, c'était tout indiqué. Il y a des échos très drôles entre une femme qui porte un boa noir avec une autre femme de Nina Childress et un manteau de fourrure bleue. Enfin, c'est une exposition dans laquelle on peut se perdre et qui est totalement, totalement réjouissante.
Bon, voilà, de quoi faire le voyage à Toulouse au moins, mais pour les autres aussi. Mais Nina Childress, alors par contre, ça dure vraiment que jusqu'au 21 octobre, c'est quand même très triste, au musée Paul Dupuis de Toulouse dans le cadre de Fracas et Frais le bruit. Le printemps de septembre, édition 2018. Alors, un coup de cœur en deux minutes, c'est compliqué, mais alors deux. Stéphane Correard.
Eh ben, j'avais envie de vous parler d'abord d'un lieu, en fait, et d'une exposition, mais d'une exposition à travers un lieu. C'est la galerie Lumière des Roses, qui est à Montreuil, et qui est un lieu absolument merveilleux, qui a été créé en 2004 par Marion et Philippe Jacquier, et qui se trouve dans un petit immeuble, dans une grande cour à Montreuil. Pourquoi c'est merveilleux? Parce que, à l'époque du star system, du name dropping ou des records absurdes de prix en vente aux enchères dont on nous rebat les oreilles, eux, ils ont choisi de se spécialiser dans les photographies anonymes, qui leur ressortent de l'oubli uniquement par leur propre qualité. Donc ils font 5 ou 6 expositions par an, la plupart du temps thématiques, mais ils ont aussi fait des monographies assez épatantes, dont celle de Zorro, l'homme au fouet, dont on avait beaucoup entendu parler et qu'ils ont exhumé du néant.
Elle se trouve où, cette galerie?
Elle se trouve à Montreuil.
Mais il y a une adresse quand même.
Je pensais que vous l'aviez, Arnaud.
Bah, moi, j'attends que vous me veniez avec vos coups de cœur et avec vos informations. Il y a une minute déjà été écoulée.
Alors, d'accord, excusez-moi, je vais le trouver. Alors, non, je vais vous le dire.
Donnez-moi le livre, je vais chercher.
Donc, l'exposition est vraiment un événement, celle-ci, parce qu'elle s'appelle La Zone. Elle rassemble une centaine de photographies noires et blancs qui couvrent la période 1910-1965, avec un commissariat scientifique extrêmement sérieux d'Anne Granier, qui a fait une thèse en doctorat sur ce sujet. La Zone, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la Zone avec un Z majuscule. C'est cette bande demande de terrain de 250 mètres de large qui avait été laissé vierge à partir de 1840 autour des 34 km de fortifications qui saignaient Paris. C'est une espèce de ligne Maginot avant l'heure, et cette bande était restée vierge pour que l'artillerie puisse bloquer des éventuels assaillants. Mais on a vu dès 1871 que ça ne fonctionnait pas très bien. Dès lors, pendant que Haussmann embourgeoisait Paris au tractopelle, eh ben, la zone s'est remplie d'habitations de fortune et devenue un gigantesque bidonville avec des roulottes, des petites fabriques, des guinguettes, abritant entre les deux guerres jusqu'à 40 000 personnes. Et c'est ça qu'on voit dans l'exposition.
Des zonards. Ça vient de là.
Absolument.
Ce mot-là, quand même.
Et c'est ça qui est merveilleux dans cette exposition, c'est que ça donne un visage à ces zonards. Ça montre aussi tout l'urbanisme finalement qu'il y avait dans ces zones. Moi, j'étais spécialement sensible parce que en même temps que cette exposition se tient cette fois-ci en Suisse à Interlaken,
au Kunsthaus. Vous faites le lien.
Oui, c'est très important.
Je vous coupe la parole dans 20 secondes.
Consacrée à Jürg Krähenbühl, un artiste qui a peint lui les bidonvilles à partir de 1956 sur les mêmes territoires qu'avait remplacé finalement la zone qui a été démantelée à cause de la construction notamment du périphérique. Et donc à Interlaken, on voit ces tableaux de Krähenbühl où on voit les mêmes scènes finalement qui se répètent avec ces habitants dans leurs roulottes, dans ces petites rues des bidonvilles. Mais cette fois-ci, elles sont en couleur, ils sont en peinture. Donc je trouve que c'est absolument extraordinaire d'avoir cette vision qui oppose toujours finalement la ville moderne, verticale, minérale, etc. Et cette ville horizontale, peu normée, qui rassemble aussi ceux qui sont attachés, comme vous certainement Arnaud, à ce concept d'une habitation individuelle, mais surtout d'un espace
galerie,
en plus
galerie, lumière,
qui permet d'avoir
roses,
un potager, 12. Un atelier, un clapier ou un poulailler.
Donc, galerie Lumière des Roses, si je peux le dire, 12 ou 14 rue Jean-Jacques Rousseau à Montreuil. C'est un jingle que vous ne connaissez pas, Stéphane Correa. C'est celui du Petit Salon de Lucille Como, qui est de retour cette saison, une fois par semaine, de façon glissante, d'une discipline à une autre. Donc, logiquement, la semaine prochaine, ce sera jeudi, ce sera littérature, la suivante, vendredi, etc., etc. Et ce soir, les lancements me sont toujours griffonnés à la main, juste avant que ça commence. Ce soir, l'art contemporain qui se mêle d'enfance, Lucille Como.
Oui, à la Maison des Arts de Malakoff vient d'ouvrir une exposition de deux artistes, Laura Botreau et Marine Fiquet, intitulée « J'ai léché l'entour de vos yeux ». Une exposition qui, selon le petit texte introductif proposé par le lieu, je cite, « pénètre l'espace de l'enfance ». Il y a quelques semaines, Corinne Rondeau, ici présente, m'a parlé de ce travail. Je ne vais pas l'imiter, j'aimerais bien, mais je suis assez nulle en accent. Ça pose plein de questions, va voir.
C'est ça, bien sûr. Mais bien elle sûr. Raconte n'importe quoi.
Surtout que l'exposition a commencé il y a 5
alors,
jours.
Si on commence comme ça, Lucie, ça va mal se passer.
Mais Corinne était très informée. Bon, en tout cas, à ce moment-là, là, vous n'allez pas me contredire, c'était la fin d'une grande exposition au Palais de Tokyo, la saison Enfance. Un rendez-vous désormais traditionnel du grand temple de l'art contemporain à Paris. De quoi donc se poser en toute modestie et en simplicité et en 5 minutes la question des rapports entre art contemporain et enfance. Alors, entrons un peu dans l'exposition de Laura Botreau et Marine Fiquet, dans un premier temps, rien à voir avec l'ampleur du Palais de Tokyo. Là, il y a deux niveaux, une douzaine d'œuvres, des installations de mannequins, un jeu de dames, une vidéo, pas mal de dessins. On entre et d'emblée, on se trouve face à un amas de sable, un îlot, sur lequel gisent des maillots de bain vidés de tout corps et surtout duquel émergent ce qu'on croit d'abord être des coquillages, mais qui, en fait, sont des yeux. Dans un angle, à droite, un mannequin d'enfant, visage lisse, main immense, comme ligoté à un arbre, une balle rebondissante étoilée dans la bouche. Moi, j'étais toute seule dans l'exposition, franchement, j'en menais pas très large. Selon les dires même des artistes, il s'agit de déployer une image dysfonctionnelle de l'enfance, je les cite, et de fait, c'est à des figures ultra-sexualisées, morbides, menaçantes, même parfois, qu'on est confronté. La dame qui m'avait ouvert m'a tendu un guide de médiation très fourni, écrit par les artistes, et j'ai pensé aux profs et instits qui allaient emmener leurs petits élèves, pas facile. Alors qu'au Palais de Tokyo, quand j'y suis allée, là, je me sentais pas vraiment menacée. Les espaces sont vastes, les couleurs riantes, les œuvres ludiques et les quelques installations qui peuvent confiner à l'étrangeté, enrobées dans une atmosphère bien conviviale et douce. Là, pas besoin de fascicules. L'exposition est dédiée aux 7 à 77 ans, selon la formule consacrée, et entend confronter le public à la fois à ce qu'il y a de familier et d'étrange dans l'enfance, mais sans le heurter surtout. Citons peut-être une installation comme exemple, celle d'Ugo Rondinone, qui est assez comparable dans le support à certaines œuvres œuvres de Laura Bottereau et Marine Fiquet, puisque ce sont aussi des mannequins mis en scène. Donc c'est une installation qui rassemble dans une vaste pièce une trentaine de clowns taille réelle dans des positions différentes, certains assis à Vachy, d'autres allongés dans des positions de repos, d'autres accroupis. La figure du clown a un gros potentiel inquiétant, mais la perfection plastique des mannequins, la vivacité des costumes, l'éclairage des plafonniers laissaient assez peu de place à l'étrangeté et à une quelconque frayeur, et croyez-moi, j'ai vraiment peur des clowns. Et une rapide comparaison des titres des expositions est assez parlante à cet égard. Celle du Palais de Tokyo, encore un jour banane pour le poisson rêve, titre mignon. Rien à voir avec J'ai léché l'entour de vos yeux, qui est quand même une image assez dérangeante. Et donc, ma question, est-ce que représenter l'enfant, c'est nécessairement se situer sur un terrain moral, avec en jeu des questions de réception et donc de précaution?
Vous avez 4 heures. Non, vous avez 10 minutes.
Ça ressemble un peu
à ça. 10 minutes. Ouais, c'est ça le petit salon. Qui commence? Stéphane Corrière, je sens qu'il a très envie d'entrer dans ce petit salon.
Cette question me passionne. Je préfère largement parler de ça que de la zone pendant le quart d'heure qui nous reste. Non, c'est une blague. J'aurais bien voulu parler de la zone.
Non, mais... il reste 10 minutes, c'est ça la blague.
Ah, c'est aussi une blague. Écoutez, je n'ai malheureusement pas vu l'exposition de la Maison des Arts de Malakoff, mais je n'ai aucun mal à penser qu'elle est mieux que celle du Palais de Tokyo qui vient de s'achever, qui était quand même une des saisons les plus catastrophiques, à mon avis, et d'ailleurs de l'avis général, du Palais de Tokyo. Donc,
restons
je pense
sur
que
la question de Lucille Comment.
Vous, j'allais y répondre. D'abord, ça m'a surpris parce que pour moi, l'enfance n'est pas vraiment une question centrale dans l'art contemporain. On en a beaucoup parlé, vous vous en souvenez, Arnaud, à l'époque notamment de Présumé innocent, l'exposition du CAPC de Bordeaux, qui avait donné lieu à des mises en examen, des commissaires qui avaient voulu montrer que l'enfance n'était peut-être pas si innocente que ça. Donc il me semblait qu'on avait fait un peu le tour de la question et surtout qu'on avait vu le côté un petit peu artificiel de ça. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pas la représentation littérale de l'enfance. On a parlé l'année dernière de Marie Cassatt, dont c'était le seul sujet. On a déjà vu dans quelles impasses ça pouvait mener. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de l'envisager comme Jean-Yves Jouannet, sous l'angle de l'idiotie, c'est-à-dire de quelque chose qui d'un coup fait irruption, effectivement, dans un monde d'adultes, dans un monde de grands, et peut effectivement être inconvenant. Ça me semble déjà beaucoup plus intéressant. En même temps, ça me fait penser à une œuvre que j'adore, qui n'est dans aucune de ces deux expositions, ce sont les peintures de Jeanne Ionesco, qu'il a réalisées à la fin de sa vie, toute fin de sa vie, dans les milieux des années 80. Il était complètement en panne d'inspiration, dépressif, il a arrêté d'écrire, et il s'est mis à peindre, et il s'est mis à peindre comme un enfant. C'est-à-dire que ces gouaches, ces lithographies, ressemblent à s'y méprendre à des dessins d'enfants, pour ceux qui ne connaissent pas son travail. Parce qu'en réalité, si on s'y attarde et qu'on regarde de plus près, et qu'on a des enfants ou qu'on a observé des dessins d'enfants, on va se rendre compte que ça n'est absolument pas des dessins d'enfants. D'abord, les thèmes n'en sont généralement pas. Il y a même de la pornographie, par exemple, mais traitée de manière enfantine. Et là, il y a du coup un choc qui m'intéresse beaucoup plus que effectivement l'illustration littérale.
Annaël Pigeon, on revient à la question. Hein. Est-ce que représenter l'enfance, c'est nécessairement se situer sur un terrain moral? Demandait Lucille Como.
Mais je ne suis pas sûre que ces deux expositions, puisque c'est d'elles dont on parle, se situent sur un point de vue... Enfin,
on a cette question
de la morale, elles sont prétextes à cette question. Mais je ne crois pas que ce soit les directions qu'elles prennent, ni l'une ni l'autre, à vrai dire.
Mais alors qu'est-ce que ça raconte?
Justement, non, mais ça, la saison du Palais de Tokyo, c'est effectivement, enfin, comme Lucille l'a tout à fait raconté, c'est une vision de l'enfance qui a trait à une forme d'enchantement, pas exclusivement, parce qu'il y a aussi, on y voit aussi des formes de cruauté, on y voit aussi, à vrai dire, des œuvres qui n'ont absolument rien à voir avec l'enfance, dans mon souvenir, d'aucune manière, à vrai dire. Mais en tout cas, la danse menée par Clément Cogitor, qui était le dramaturge de l'exposition, est une vision de l'enfance, enfin, donne une vision de l'enfance qui a trait à l'enchantement, au rêve. On avait longuement parlé dans l'émission de l'exposition qu'il avait faite au Bals, dans laquelle on voyait ses petits-enfants au fond de la Russie, comme ça, comme des contes de fées. L'exposition de la Maison des Arts de Malakoff se situe sur un registre, dans un registre extrêmement différent. Il y a là une sorte de conscience, une responsabilité du centre d'art à soulever un certain nombre de questions qui se posent dans la société. Le travail de ces deux artistes montre une enfance qui me donne plutôt l'impression d'une enfance souffrante, d'une enfance difficile, d'une enfance qui fait une place importante à la cruauté. Alors, il faut dire qu'elles ne sont pas les premières, ces deux artistes, à s'attaquer à ces questions. Si on pense, par exemple, aux dessins de Henri Darger et de ses Vivian Girls, qui sont d'une extrême violence, ce dessinateur américain qui est mort en 73, qui est né à la fin du 19e, dans lequel on voyait ses fillettes et ses armées de fillettes se battre dans des scènes vraiment d'une violence inouïe. Si on pense au petit enfant de Maurizio Cattelan, que l'on voit de dos et qui se révèle quand on s'en approche et qu'on voit son visage être une image de Hitler enfant, elles ne sont pas les seules aussi quand on pense aux images de belle-mère. D'une certaine manière, enfin, l'histoire de l'art est pleine de ces questions. Ce qui est certain, c'est que ces œuvres peuvent être difficiles quand les publics arrivent devant elles, et que il est évident que tout est une question de médiation, et que le centre d'art est un lieu dans lequel la médiation est importante, et que il fait partie des fonctions du centre d'art que de déployer ces formes de médiation riches et multiples, ce qui, je crois, est largement le cas à la Maison des Arts.
Corinne Rondeau.
Oui, alors je vais vous castagner en sortant de l'émission, Lucille. Très bien. Mais moi je vais parler. Vous avez parlé là, du Palais de Tokyo, donc qu'il n'y avait rien à voir. Mais je crois là je rejoins le point de vue la morale. La morale vient toujours de l'extérieur. Elle ne vient pas de l'intérieur de l'art. C'est faux, à moins d'avoir une dimension, je dirais, d'un message à fournir, etc. Là on est face à un travail qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes comme d'autres. Hein, comme d'autres, vraiment. Et la question de l'art, il est à la fois plastique, il est à la fois comment effectivement on peut exprimer quelque chose de l'enfance. L'enfance, c'est un concept. L'enfance, c'est pas les enfants. Quand les gens confondent les enfants et l'enfance, c'est qu'ils ont un problème. C'est comme lorsqu'ils voient l'origine du monde et qu'ils pensent que c'est un sexe. Donc, quand on fera l'amour avec les tableaux et qu'on procréera avec eux, il y aura vraiment un problème à ce moment-là. Donc il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre de la production de l'art. Et on voit bien que ces jeunes artistes, hein, qui ont une pratique toute jeune, soutenue effectivement par la résidence dans laquelle ils ont fait ce travail, mènent un travail qui est sur le langage. Elles mènent un travail sur la manière dont on théâtralise quelque chose d'une enfance, de l'enfance qui est muette, dans la mesure où enfance, ça veut dire infantis. C'est l'enfant qui n'a pas encore appris à parler. Et bien, comment elles font quand on a ce sable dans lequel il y a des yeux? C'est d'abord une manière de responsabiliser le regard du spectateur. Tu n'es pas jamais innocent. Ce n'est jamais un loisir que de venir voir de l'art. C'est toujours un travail, un effort à faire, y compris si je suis gênée, y compris si c'est vide, ou y compris quand c'est beau et que j'aime ça. Donc à un moment donné, je trouve que ce travail, il a sa raison d'être comme beaucoup de formes d'art, que la question de la moralisation est une arnaque, je dirais, mais elle est au cœur de notre société aujourd'hui parce que il y a de l'autocensure, parce que attention, l'enfance c'est dangereux. Mais si vous dites ça, alors vous confondez la pratique artistique, le travail qui se fait autour justement de protocoles de dessin où il y a l'enfance, mais en même temps c'est avec des jeux que ça se fait. Cette manière de théâtraliser, de mettre du protocole, c'est mettre à distance. Et tous les éléments jouent de manière paradoxale sur une reconnaissance et une non-reconnaissance, dont le cliché est perturbé souvent, et donc on ne sait plus face à quoi on est. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais je trouve le travail honnête, le travail il est sur le langage. Autrement dit, ce n'est pas de la provocation. À aucun moment, moi, je n'ai été mal à l'aise, contrairement à vous, chère Lucille.
J'ai absolument pas dit ça.
Et par ailleurs, la question de la convenance, elle est au cœur aussi de leur travail. Je veux dire que ce soit le langage,
c'est la question de la
symbolisation,
ouais,
c'est bien sûr.
C'est un mais travail lié à l'enfance, la vie.
Vous disiez, Lucille Comeau, parce que moi, je vous ai pas entendu, les auditeurs non plus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut totalement poser la question de l'enfance par le biais du langage aussi. Et la question de la violence qui est dans leur travail, elle se pose via la question enfantine. Je suis désolée, Corinne. Non. Mais c'est pas la question d'être choquée ou pas. Ça m'intéresse en effet pas du tout. Ce ne sont pas des œuvres qui sont dans la provocation. Et pour autant, à mon avis, il y a quelque chose qui se joue sur l'enfance. Elles le disent en permanence dans leurs textes. On ne peut pas nier ça, c'est pas sur le langage abstraitement.
Ce qui est particulièrement réussi dans cette exposition, c'est la manière dont elle met les émotions à distance, la manière dont elle invite à la contemplation et À la contemplation.
Voilà. À la contemplation. Dernier petit mot.
Non, c'est vraiment une réflexion sur la manière dont on peut représenter à partir d'un certain nombre de protos. Et c'est la question du langage, c'est quand on n'a pas la parole, quand la question de la parole est interdite ou elle est bâillonnée ou elle est pas entendue, ben ce sont le jeu du langage qui produit du dessin. C'est ça qu'il faut dire. Les dessins sont tous donnés par des protocoles ou enfin en partie pour les dessins.
Lucille Comeau.
Non, des protocoles qui sont des jeux d'enfants. Donc, je veux dire, il y a quand même un rapport entre les deux. Ça n'évacue pas totalement la question de l'enfance. Les protocoles, c'est une grammaire ancienne qui était utilisée par les enfants au début du XXe siècle, par
d'accord,
exemple,
mais qui
ou un jeu de dames.
Mais bien sûr, mais je veux dire... Bon, bref, de toute façon, il y a Castagne en sortant.
Non, il n'y a pas Castagne, les gens vont le croire quand vous dites ça.
Mais bien sûr que non.
Ben voilà, il faut...
Mais par contre, elle a dit un mensonge. Ça,
Le mensonge
que jamais je lui ai dit, vas-y, il y a plein de trucs à question, c'est pas
oui,
vrai.
Vous savez, elle fabule dans ses petits salons. C'est un espace de liberté pour Lucille Comeau. C'est une fiction.
C'est une fiction. C'est toujours au premier degré.
Allez, on sort en claquant les portes du petit salon. On ne se castagne pas avec sa radio. On propose des cadeaux, nous, on n'est qu'amour, gentillesse, don. Enfin, il faut les gagner quand même, ces cadeaux. La question d'hier au soir, Sarah, c'était...
Que représente le drapeau de la ville de Venise ?
La réponse était...
Le lion de Saint-Marc.
Et ce soir, des places de cinéma gagnées pour Rafiki, un film de Wanoo Ri Kaiyu, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question ?
Quel précédent film de Wanoo Ri Kaiyu a remporté 5 récompenses lors des African Movie Academy Awards ?
Quel bel accent. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter notre émission. Et le plus simple, c'est de vous abonner au podcast. Voilà un bon conseil. Demain, il y aura Castagne. Dès 19h pour une dispute de littérature avec Lucille Comeau, Grégoire Léménager, Étienne de Montetti, Castagne autour de, à son image on verra, de Jérôme Ferrari, Un tournant de la vie de Christine Angot, En guerre de François Bégodeau, et puis il y aura bien sûr un coup de cœur d'Étienne de Montetti, en l'occurrence pour Le dernier bain de Gwenaëlle Robert.